Folie, une émission consacrée aux questions que le développement des sciences pose à la société. Grandes en Folie, présentée par le SICOVAL, proposée par le SICOVAL, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain, et présentée par Daniel Borderie. Je commence. Avec aujourd'hui Michel, la prise de son aux manettes, aux ordinateurs, aux platines, aux éprouvettes, aux étiquettes, au gommage des lapsus, enfin tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez écouter cette émission sur les 90.1 de Radio Mpays. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Neurones en Folie. Au sommaire de ce numéro, quelques informations sur des événements qui se produiront la semaine prochaine. Puis un entretien avec une équipe de recherche du CERTOP, laboratoire de recherche en sociologie qui est sise à l'université Toulouse-Mirail, à propos d'une enquête qu'ils réalisent actuellement sur l'étiquetage des produits domestiques. Mais tout de suite, pour se mettre en oreille, Nino Rosselet, c'est un guitariste flamenco qui joue ici la musique de Billy Vance, c'est un disque qui s'appelle Paz, et le morceau qu'on va écouter, c'est Estrella Morent qui chante, est au chant, et ce morceau s'appelle Minha. Thank you. Bien voilà, il y a le lapsus linguae, puis maintenant nous avons ici, en Neurones en Folie, mis au point le lapsus disqué, qui consiste à ne pas passer la chanson ou le morceau qui est prévu. Donc nous avons écouté, c'était bien aussi, Nino Rossellé, il jouait bien un morceau de Billy Vance, en l'occurrence Never Let Me Go, mais c'était Jerry Gonzalez qui était à la trompette. Voilà, ce morceau, bien, j'avais prévu de le passer plus tard, peut-être qu'on écoutera plus tard, peut-être, Estrella Morente, mais sinon ce sera pour une autre fois. Ce disque est magnifique, je vous le conseille, Paz, Nino Rossellé. Deux informations et une revue. La première, c'est que mardi 13 novembre, soit mardi, là, dans quelques jours, à 20h, à partir de 20h, au Café des Sciences de la Société, c'est au Marin d'Eau Douce, à Armand-Ville-Saint-Agne, eh bien, il y aura un programme particulier, puisque il n'y a pas d'intervention, il y aura simplement deux films documentaires, un qui s'appelle Villa Flores, qui est de Marina Galimberti, et un autre, La double face de la monnaie, de deux auteurs, Vincent Gaillard et Jérôme Polydor. Et pourquoi cela? Puisque j'ai commencé avec du latin, mais il y a non seulement lapsus linguae, il y a bis repetita placent, les choses répétées plaisent, disaient les Romains, enfin en tout cas ce que croisait Astérix et Obélix surtout. Et bien voilà, cette répétition de l'absence d'intervenants est due au fait que André Lebeau, qui était invité à partager avec nous sa réflexion sur l'engrenage de la technique, n'avait pas noté ou n'avait pas reçu plus exactement la confirmation que je lui donnais pour le 13 novembre. Et d'après ce que j'ai compris, puisque j'avais envoyé un courriel, eh bien voilà, une machine particulière qui s'appelle la machine qui prétend trier dans le flot des courriels entre le bon grain authentique et l'ivraie spamesque, mais elle avait encore frappé et elle a mis à la poubelle mon malheureux mail de confirmation, d'où André Lebeau ne peut pas être là. Eh bien, nous ferons entre nous les beaux. Et pour cela, j'avais deux films que je devais programmer dans une autre manifestation. Nous pourrons donc voir ces deux films. Le reste de la journée, de la soirée sera inchangé. Je vous en donnais quelques éléments. Je voulais dire également que j'aurais pu demander à quelqu'un de remplacer au pied levé André Lebeau, et j'avais deux noms, Faustine Régnier et Jean-Louis Comolli, mais j'ai pensé que c'était un peu délicat de les faire venir alors que le 14 novembre, les faire venir de Paris, le 13 ils pouvaient venir et le 14 ils risquaient d'être prisonniers de notre belle cité rose. Et donc m'associant au fond à la grogne qui mène à la grève, j'ai décidé que je ne faisais venir personne en remplacement d'André Lebeau. Alors la double face de la monnaie, par contre, il y a beaucoup de monde dans ce documentaire, puisqu'on trouvera Patrick Viveret, Dominique Pillon, professeur d'économie, bien connu des membres d'Attaque, ou Michael Lenton, qui est l'inventeur des selles. Et on aura donc comme ça peut-être une discussion aussi sur cette double face de la monnaie. Le reste, eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire que la nuit blanche, c'est la carte blanche à Isabelle Cirla, donc le concert à partir de 20h30. Isabelle Cirla a invité Didier Labbé, Olivier Brousse à la contrebasse et Jean-Denis Rivallo à la batterie pour jouer des musiques qui ont été composées par Didier Labbé, qu'on avait déjà entendu il y a 2 ans, quand ils étaient venus présenter leur spectacle Nuit Blanche. Et à ce moment-là, c'était un ciné-concert. Et là, c'est un concert sans ciné, puisqu'on n'aura pas de ciné, mais on n'aura que le concert. Et donc, on se consacrera sur la musique. Et ça sera une soirée assez particulière, puisque le fils d'Isabelle et de Didier, Martin, empruntera les balais et les baguettes de Jean-Denis Rivallo et s'installera pour tenir la rythmique derrière ses souffleurs de parents. Pour le reste, la formule reste inchangée, puisque à partir de 19h30, il y a le buffet, et puis la roue de la science, bien évidemment. Alors voilà, donc je vous convie à une soirée qui sera sûrement très agréable au Marin d'Eau Douce, c'est mardi 13, à partir de 19h30, 20h. Deuxième manifestation, c'est vendredi 16 novembre, 20h30, ça se passera à la salle des fêtes d'Escalquins, et c'est dans le cadre de cette manifestation dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Sicoval sans frontières. Eh bien, une manifestation qui se déroule tout le long du mois, dans le cadre du mois de la solidarité internationale, de la fraternité entre les peuples. Le titre est long, mais il mérite d'être dit. Le 16 novembre, alors vous trouverez toutes les informations sur le site du Sicoval, sicoval.fr, mais le 16 novembre, comme j'ai mis la main à la préparation de cette soirée, je vous en parle. Il s'agit d'un ciné-débat, il y aura la projection d'un film qui s'appelle Poussière de femme, qui est un film d'une jeune réalisatrice, Lucie Thierry. et qui traite du rôle et de la place des femmes africaines aujourd'hui, majoritairement analphabètes et pourtant piliers de l'économie dans de nombreux pays de ce continent. Donc le débat suivra et Lucie Thierry sera, donc la réalisatrice, sera là pour discuter avec vous. Cette soirée est organisée par le comité de jumelage d'Escalquins. Voilà, donc cette soirée, c'est le 16 novembre, c'est à 20h30 et c'est à la salle des fêtes d'Escalquins. Vous verrez, Lucie Thierry a fait un très beau travail. C'est un travail qui a demandé aussi une approche très particulière de ces femmes qui balaient les trottoirs la nuit dans les rues africaines. Et elle les a fréquentées pendant plusieurs années, 3 ans m'a-t-elle dit, pour arriver justement à avoir cette qualité de discussion et de rencontre avec ces femmes. Donc je crois que ça sera un bon moment. En tout cas, ce film commence maintenant à être connu, à tourner un petit peu. Et je suis très heureux qu'on puisse vous le présenter à Escalquins. Je vous ai dit sur le site sicoval.fr, vous pouvez toujours tout savoir. Hein. Et si vous allez dans la rubrique Sicoval son, en son et en images, eh bien, vous pouvez même réécouter les émissions Neurones en folie ou les interventions et les débats du Café des sciences de la société. Et vous pouvez surtout vous abonner gratuitement à la lettre du Café des sciences de la société qui vous tiendra informé, par exemple, des contretemps qui peuvent arriver ici ou là parce que il y a aussi les modifications d'emploi du temps, mais c'est normal quand on résiste des choses qu'il arrive que quelques grains comme ça, eh bien, grippent la machine. Alors, et pour en terminer avec cette première partie, je viens de recevoir le courrier de l'environnement de l'INRA, et c'est le numéro 54. C'est pour moi toujours un grand plaisir, parce que ce courrier, qui est le courrier édité par la mission environnement et société de l'INRA, se présente, c'est un irrégulomadaire, et alors il dit, se présente lui-même, irrégulomadaire étonnant, destiné à des publics béotiens, professionnels ou scientifiques, parfois antagoniques, mais ayant souvent des enjeux similaires en matière de sciences, d'environnement, d'agriculture et de développement durable. Le courrier aspire à les amener à partager, à mettre en perspective et critique les conceptions, les problématiques, les débats et les résultats de la recherche agronomique telle que l'INRA, institution publique, et ses équipes la conçoivent et la mettent en œuvre. Et le gros avantage de cette magnifique revue, hein, qui fait quand même 170 pages, c'est que l'abonnement est gratuit. Il suffit d'écrire à la mission Environnement et Société, 147 de rue de l'Université, 75 Paris quelque chose, 338 Paris CEDEC 07. Donc, mais vous trouvez ça, Institut National de la Recherche Agronomique. Je pense qu'on doit pouvoir s'abonner sur le site de l'INRA également. Et donc, vous recevez, alors c'est irrégulomadaire, de temps en temps, vous recevez un numéro. Dans ce numéro-ci, il y a, par exemple, des réflexions sur filmer le monde pastoral. Voilà, quelque chose qui ne manque pas de... Jachère apicole, jachère fleurie, ou l'agriculture interrogée par le développement durable, ou bien jachère florale en zone de grande culture. La chose qui intéresse, justement, c'est en lien avec la question de l'apiculture et des abeilles, et indicateurs de biodiversité et contexte réglementaire. Donc, de très bons articles qui sont, comme il est dit, bien, pour les béotiens comme moi, c'est très bien, mais en même temps, c'est bien sûr très sérieux. Ce sont tous des chercheurs qui interviennent dans cette revue. Et voilà, donc je ne saurais trop vous conseiller sa lecture et son abonnement. Elle est diffusée à 14 500 exemplaires, l'air de rien. Donc c'est quand même un média intéressant. Alors, bien, on va continuer notre émission de ce jour. Et je tiens à vous remercier, donc, Michel Lalanne, qui est sociologue et maître de conférence à l'Université du Mirail. Et Anne Razous, qui est chargée de communication au CERTOP. Et Michel Escarboutel, ingénieur de recherche, sociologue spécialisé en statistique, et Joël Courant, vous êtes informaticien au CERTOP. Donc tous les quatre, vous êtes venus pour nous parler de cette enquête que vous avez mise au point et qui est en cours, on va dire, d'instruction, d'exécution, sur l'étiquetage des produits domestiques. Alors, bonjour à tous. Et,
bonjour.
J'ai juste une première question, peut-être parce que ça nous permettrait de mieux savoir. Moi, je ne sais jamais à quoi correspondent ni les initiales, ni les noms des laboratoires. Alors, Anne Razous, je vais me tourner vers vous, puis vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est le CERTOP. Peut-être que des gens ici, peut-être des gens du laboratoire sont déjà venus à cette émission. Peut-être l'ai-je oublié, donc si vous pouvez nous dire ce qu'est le CERTOP.
Oui, bonjour. Le CERTOP, donc c'est un laboratoire public de recherche de sociologie. C'est le centre d'études et de recherche travail, organisation, pouvoir. Ce laboratoire est à Toulouse. Il est sur l'université Toulouse Le Mirail, situé à l'université, et il est rattaché à l'université et au CNRS. Aujourd'hui, le CERTOP, c'est 135 personnes, des membres permanents, des membres non permanents et notamment des étudiants en thèse de sociologie, donc des doctorants. C'est en proportion à peu près un tiers de chacun de ces personnels. Voilà pour ce qui est en quelques mots le CERTOP.
Vous pouvez nous dire les grandes, peut-être grands départements, 135 personnes, j'imagine que c'est organisé selon quelques filières.
Donc effectivement, l'activité de recherche qui rassemble ces 135 personnes autour de la sociologie traite principalement de l'action collective organisée, c'est-à-dire la façon dont les êtres humains vont s'organiser ensemble à différents niveaux, que ce soit au niveau régional, au niveau d'entreprise, au niveau du travail, au niveau des marchés. Et ces 135 personnes, donc, ensuite, ont des thématiques de recherche plus précises et sont constituées en groupes de 5 groupes qui peuvent avoir comme sujet de recherche les risques sur l'explosion d'AZF. Ça peut être également le temps de travail des cadres, ça peut être aussi la responsabilité sociale des entreprises. Ce peut être également des questions d'égalité hommes-femmes, de genre et d'alimentation, de santé. Voilà, tous ces thèmes-là sont abordés par les chercheurs du CERTOP.
Si on veut savoir plus sur le CERTOP, peut-être qu'il existe un site ou un lieu où on peut aller
tout à fait.
Vous
je
visiter.
Crois que, je crois que le plus simple, c'est peut-être de passer par un moteur de recherche de type Google, de taper CERTOP, C-E-R-T-O-P, et de trouver immédiatement l'adresse de notre site. Vous pouvez avoir tous les renseignements
bien,
sur ce site.
Ça, voilà pour cette présentation. Alors, Michel Lalanne, je vais commencer par vous parce que vous m'avez fait parvenir un certain nombre de documents sur le travail, sur l'enquête que vous êtes en train de réaliser. Et avant même de parler de cette enquête, j'ai deux petites questions comme ça à vous poser. C'est la question sur le puisque ça se porte un peu là-dessus, sur le risque domestique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de risque domestique, puisque bon, on peut comprendre globalement de quoi il s'agit. Mais d'abord, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un sujet d'étude? Comment ça intervient dans un champ comme la sociologie, la question du risque domestique? Est-ce que peut-être on peut en dire quelques mots, et puis après on essaie de rentrer dans la question de l'enquête.
D'accord, à mon tour je vous dis bonjour. Ouais. Dans le risque domestique, en fait, c'est un objet qui est en train d'émerger. C'est l'objet de mon travail de recherche. Et donc, en fait, j'essaie de montrer qu'il y a une forme d'invisibilité saillante, c'est le cas de le dire, de tout ce qui est risque domestique. En fait, tout se passe comme si, lorsqu'il s'agissait de parler de l'intérieur des maisons, des appartements, des logements, eh bien, c'était de la sphère privée, et donc ça reste un petit peu secret. Le risque n'est pas pensé. Et à partir des statistiques concernant les accidents domestiques, hein, puisqu'il y a malgré tout des données qui existent, on se rend compte qu'il y a un sous-enregistrement extrêmement important des types d'accidents domestiques existants. Comment on sait qu'il y a ce sous-enregistrement ? Tout simplement parce qu'il n'existe pas en France d'enregistrement des accidents domestiques. C'est aussi simple que ça. C'est pas le cas de tous les pays. En Grande-Bretagne, par exemple, on peut dénombrer des dizaines de milliers d'accidents liés aux chutes parce qu'on s'est accroché le pied sur le tapis, parce qu'on était en train de monter un plancher flottant et qu'on s'est blessé. Bon, c'est pas le cas en France. Donc c'est d'abord une question de statistiques. Mais cette question de statistique renvoie bien sûr à une volonté certainement politique qui qui renforce l'idée que la sphère privée et la sphère publique sont complètement séparées, dont le risque, c'est un objet social, le risque domestique, c'est un objet social que je suis en train de construire, hein, en montrant à partir de la question statistique des accidents, comment des dispositifs sont mis en place pour apporter un certain nombre de preuves. Et un point que je voudrais signaler, c'est que si des statistiques sur les accidents domestiques commencent à être de plus en plus présentées, en fait, à mon sens, c'est parce qu'il y a une injonction de l'Europe et d'un ensemble d'institutions européennes pour calculer l'efficacité des politiques de prévention. Donc voilà le côté risque domestique.
Voilà.
L'autre pan en dehors des accidents, autre pan des risques domestiques qui est tout aussi invisible et encore plus invisible, on va dire, parce qu'on n'y croit pas au départ, c'est en fait tout ce qui est lié à l'exposition en milieu domestique, c'est-à-dire dans un espace confiné dans son logement, exposition à un certain nombre de risques invisibles, genre exposition à des molécules qui peuvent être dangereuses.
Oui, alors ça c'est une aussi quelque chose qui est assez récent, y compris dans la sphère publique, puisque on peut se souvenir d'affaires comme celle de l'amiante, par exemple, où l'exposition pour les travailleurs de l'amiante a été longtemps niée avant qu'elle fasse problème, et peut-être aussi donc dire de manière générale peut-être comment la perception du public, après on parlera des ménages, des individus que nous sommes quand nous rentrons chez nous, mais la perception du public par rapport à tout ce qui est environnement chimique, la question de l'exposition aux problèmes chimiques, vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots comment ça, d'abord ça n'a pas été de tout temps, hein, je crois qu'il y a un moment où la chimie apparaît comme celle qui règle la quasi-totalité de nos problèmes, et grâce à tel produit que l'on va mettre dans la machine, ou tel produit que l'on va mettre dans le béton, ou tel produit qu'on va mettre ici ou là, c'est un peu l'effet miracle, bien on aura un progrès et on aura du mieux-être. Et quand même, cette compréhension du public de manière générale évolue, et peut-être on peut parler de cette évolution pour arriver après à ce qui se passe maintenant.
D'accord. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est d'abord, il y a peut-être une perception actuelle du public concernant la notion de substances chimiques qui sont dangereuses. Parce qu'auparavant, le public, de façon générale, pensait que...
J'ai un petit vide. Alors, pardon.
Pardon.
Vous disiez que le public, de façon générale, pensait que ces produits-là étaient... Alors peut-être vous pouvez enchaîner et voir comment vous voyez la chose de votre côté, puisque alors, c'est une... On va revenir avec Michel dans une petite minute, mais dans cette équipe, il y a aussi quelque chose sur lequel il faut parler, puisqu'on reviendra sur cette idée de comment le produit chimique vient et nous heurte. Bon, moi, j'ai des expériences assez personnelles, puisque je suis un vieux Toulousain, et j'ai habité longtemps à côté d'une usine qui s'appelait AZF, et qui s'appelait à ce moment-là Lonia, et participé avec un certain nombre d'amis à la mise en place des comités hygiène et sécurité dans cette usine-là. Et donc, pour me rendre compte comment la perception, y compris des travailleurs, des militants syndicaux, par rapport aux dangers qu'ils vivaient tous les jours, avait pu évoluer, comment elle est datée au fond des années 70-80. Mais je disais, ce qui est aussi caractéristique, c'est pour ça qu'on peut enchaîner là-dessus, c'est que vous êtes une équipe, donc je vous ai cité tous les quatre, dans lequel sociologue, informaticien, la personne qui s'occupe de la communication, dans une enquête c'est très important, statisticien, vous avez travaillé ensemble sur la définition de cette enquête. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Joël, comment cela s'est passé, quel est votre ressenti, comment au fond le travail s'est mené?
Oui, tout à fait. Alors, bonjour tout d'abord. Peut-être un préliminaire, moi je voudrais dire que j'ai été très très sensibilisé par le travail de Michel, puisque je l'ai trouvé abordable, c'est-à-dire que pour être père de famille, et notamment d'enfants en bas âge, d'une petite fille, cette thématique de recherche m'a vraiment interpellé, puisque le seul placard qui est bouclé à la maison, c'est celui des produits sous l'évier, qu'on n'a pas forcément ce ressenti de la dangerosité. Alors on boucle un espace parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on y met dedans, Et puis pour avoir vu aussi des émissions télévisées comme les maternelles, où on a eu un petit retour sur les centres antipoisons de Marseille, qui faisait quand même un triste constat de la dangerosité des empoisonnements des enfants. Enfin, tout ça m'a, je dirais, préparé en tant qu'informaticien, mais aussi en tant que père et père de famille, quoi, à cette enquête, à la participation de cette enquête. Et donc après, techniquement, eh bien Michel est venu me voir et puis on a commencé à concevoir un formulaire. Ce formulaire, il s'est voulu la copie conforme d'un exemplaire papier. Ça, l'exemplaire papier, je dirais qu'il a été assez facilement réalisable. Par contre, ce qui nous a... Un point sur lequel on s'est attardé, ça a été de le concevoir de façon, je dirais, virtuelle, électronique, informatique, donc pour tourner autour du vocabulaire. Et cette représentation virtuelle, on l'a souhaité répondant exactement aux mêmes critères que l'exemplaire papier, c'est-à-dire reproduisant les mêmes biais s'il y en avait dans l'exemplaire papier. Mais il nous a fallu aussi réfléchir à l'ergonomie de présentation, réfléchir aussi au traitement qu'il en serait fait, réfléchir à la notion de déontologie, de l'anonymat de la personne qui va répondre, respecter cela. Mais quelque part, il nous fallait aussi, authentifier la connexion, que la personne qui soit derrière le clavier soit unique, qu'on reçoive un seul formulaire et que ce formulaire soit réellement digne de foi, je dirais. Détecter les erreurs, et puis prélever des informations qui puissent nous dire que telle connexion s'est effectuée telle date, telle heure, en provenance de telle localisation géographique ou de telle localisation informatique, donc de tel domaine. Tous ces éléments seront dépouillés ultérieurement. Michel nous en dira peut-être deux mots tout à l'heure.
On va y revenir, si vous voulez. Moi, juste une, maintenant, pour entrer dans la question, donc... Qu'est-ce que cette enquête sur l'étiquetage, d'abord, qu'est-ce que vous cherchez, au fond, puisque vous êtes une équipe de recherche, qu'est-ce que vous cherchez à approcher en enquêtant le public sur la perception qu'il a de l'étiquette sur les produits, quel est le fond de la recherche, l'objectif?
D'accord, donc, excusez-moi pour tout à l'heure, envie de tousser. Joël, en fait, a présenté l'idée d'un questionnaire. Tout simplement, si on a adopté cette technique, c'est parce que je suis partie du principe qu'il existait un déni du risque, un déni complet du risque chimique. Des études en sociologie ont montré que les ouvriers du risque qui travaillent dans l'industrie chimique eux-mêmes sont les premiers à dénier... À refuser l'idée d'un vrai danger pour leur propre santé. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement généralisé, ce déni du risque. Ça concerne à la fois ceux qui connaissent bien le risque, parce que les ouvriers de la chimie sont ceux qui sont le mieux capables de parler des vapeurs, ce à quoi ils sont exposés, mais en même temps, dans les enquêtes sociologiques, lorsqu'on les interroge, on se rend compte que ce sont les premiers à dire qu'en fait, il n'y a pas tant de risques que ça. Donc le déni est extrêmement généralisé.
C'est une banalisation, on veut banaliser, penser qu'on ne vit pas dans un monde de risque, au fond. Et quand on est chez soi, on veut encore plus le penser, puisque chez soi, c'est le havre de paix, comme on dit. On est rentré à la maison, c'est le havre de paix. Et imaginer qu'on vit au milieu de risques chez soi, c'est quelque chose qui met mal à l'aise, c'est ça que vous voulez...
Tout à fait. Alors que le risque est déjà minimisé en milieu professionnel, il est invisible, j'arrête pas d'utiliser ce mot, il est encore plus invisible en milieu domestique, parce que c'est considéré comme une sphère privée, ou un petit cocon, où les individus se retrouvent ensemble, et où en fait, il n'y a aucun danger.
D'accord. Alors ça, c'est la perception. Puis ensuite, il y a la réglementation. C'est-à-dire que peu à peu, les réglementations ont évolué, obligeant les fabricants de produits dangereux, pour des raisons, alors on va les lister tout à l'heure, à étiqueter le danger sur, ou à faire apparaître d'une manière ou d'une autre, le danger sur le produit en question. Alors, d'abord, c'est récent, ça, bon, je me souviens de ne pas avoir vu sur des produits que vous me montrez, là, je vous ai amené deux produits, du Javel, du Miror. Le Miror, quand j'étais petit, je voyais ça chez moi, il me semblait pas qu'il y avait quelques signalements que ce soit sur le flacon. Alors, c'est arrivé récemment,
Oui, la réglementation est tout à fait récente. Parce qu'en fait, une réglementation concernant l'étiquetage existait, mais pour les matières premières qui étaient produites et utilisées en milieu professionnel. Après, concernant l'étiquetage des produits de consommation courante, donc que ce soit les produits de ménage, les produits de bricolage ou de jardinage, ça s'est fait au fur et à mesure, et ce sont les fabricants qui ont été contraints, mais avec quand même une grande difficulté dans l'harmonisation, de faire un étiquetage, sachant qu'un grand nombre de matières premières ne sont pas issues de fabricants nationaux, et en fait, tout cela a à voir avec les échanges de matières premières et de fabrication des produits entre les différents pays dans le monde, puisqu'il n'existe pas d'harmonisation des produits. Or, on peut avoir certains produits qui sont interdits dans des pays, bon, on prend le cas de l'amiante par exemple, et qui sont autorisés dans d'autres. Donc en ce moment, on peut avoir aussi des résultats d'épidémiologie qui montrent, qui attestent le danger sur la santé humaine ou sur l'environnement de certaines molécules présentes et dans les ingrédients qui composent un produit. Mais pour autant, on peut avoir des diversités de comportements et de décisions publiques tout à fait différentes. Certains interdisant, certains disant il faut prendre des précautions, et d'autres ne donnant aucun affichage.
Alors, avant de continuer sur le comment c'est perçu, j'ai une question sur le... Comment dire, pas l'honnêteté, mais la fiabilité de cet étiquetage, cette réglementation. Est-ce que d'abord tout est montré? Parce que on a un peu, quand on est consommateur, tendance à croire que si c'est écrit dessus, c'est vrai, quoi. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est écrit sur les produits quand on dit ben, ce produit est dangereux? Jusqu'où a-t-on testé, premièrement, et deuxièmement, par défaut, s'il n'y a pas écrit danger, est-ce que on peut être sûr qu'il est complètement non dangereux pour telle ou telle utilisation?
Alors. Question simple et réponse très difficile. Hein. Parce que un produit, c'est quoi? Un produit, si on reprend l'exemple du Miror, eh bien, il est fait pour, c'est écrit, nettoie sans effort, brille longtemps. On indique ensuite un certain nombre de surfaces qui vont être bien nettoyées, le cuivre, le laiton, le bronze, l'aluminium, l'acier, mais que sait-on de plus? On ne sait pas grand-chose de plus parce que la plupart du temps, les produits eux-mêmes n'ont pas été testés pour leur écotoxicité, ou pour leur toxicité. C'est bien ce que le livre blanc de la Commission européenne a montré en 2001, c'est-à-dire que sur les 100 000 substances chimiques environ présentes sur le marché européen, et donc entrant dans la composition...
Il faut répéter ce chiffre, 100 000.
C'était... 100 000 substances chimiques, ouais. Voilà.
Donc ça fait des millions de produits.
C'est ça,
que ça veut dire.
Hein, oui,
parce que 2 millions, j'ai eu de produits à partir de ces 100 000 substances chimiques. Donc, on voit, c'est un champ extraordinaire. Enfin, c'est,
tout à fait.
C'est plus que des rayons de supermarché.
Parce qu'un produit, c'est il y a des substances chimiques, mais elles ne sont pas forcément nommées. On a des ingrédients. Mais derrière les ingrédients, si c'est chimique, il y a plusieurs substances ou préparations chimiques. Donc, sur ces 100 000 substances chimiques qui ont été à peu près inventorié, on n'a pas d'inventaire précis, bien évidemment, hein. Eh bien, il y en a à peu près 1% qui ont été testés du point de vue de leur dangerosité pour les humains et pour l'environnement, dont le chantier est énorme. Donc, c'est aussi l'objet de la loi REACH qui est passée au niveau de la communauté européenne et donc au niveau de l'ensemble des pays signataires appartenant à la commission, à la communauté européenne, c'est-à-dire la France notamment. Depuis juin 2007, il va y avoir, jusqu'en 2013 d'ailleurs, il va y avoir une mise en place progressive d'un contrôle, d'une certification, d'une évaluation des substances chimiques avant leur mise sur le marché. Le problème, c'est justement Qu'est-ce qu'on fait avec les substances chimiques qui ne sont pas mises sur le marché? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les étiquette. Et donc, il y a une loi, pour répondre donc à la question, il y a une loi qui porte sur l'étiquetage des substances dangereuses. Il faut bien dire que toutes les substances chimiques ne sont pas des substances dangereuses.
Bien sûr.
Il y en a certaines dont, en principe, quand c'est repéré, ces substances dangereuses doivent faire l'objet d'un étiquetage sur soit le flacon, soit sur l'emballage. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet étiquetage? Il correspond à trois choses. Il y a d'une part l'obligation de mettre un pictogramme indiquant la nature du danger et ou l'obligation de mettre une phrase mentionnant le type de risque et ou une obligation avec une phrase comportant une mention de sécurité.
Mmh. Alors, mais donc voilà, on a les produits. Et que fait-on quand on a les produits? C'est peut-être le dernier moment de notre enquête, avant de notre discussion, avant de passer à l'enquête proprement dite. Moi je vais vous dire ce qu'on fait quand on a les produits. On les utilise et on ne lit pas ce qui est écrit au dos du produit en question. Et je me faisais la réflexion, puisque j'ai traité quelques meubles avec du xylophène ce week-end, et pour une fois, depuis très longtemps, j'ai regardé ce qu'il avait écrit. Je n'avais pas les lunettes, je n'avais pas le masque, je n'avais pas les gants, je n'avais aucun des choses que l'on demande de faire. Bon, c'est écrit en petit, quand même, en grand, mais c'est écrit en petit, et que j'ai vu ça, je me suis dit, pour un quart d'heure ou 20 minutes de traitement, tu vas pas aller, revenir, je sais pas où, chercher ces éléments que tu n'as pas. Et donc j'ai continué à badigeonner mon meuble avec mauvaise conscience, quand même, disant que j'étais en train de faire une bêtise, si je peux m'exprimer ainsi, que je prenais un risque, en tout cas puisqu'on le passe avec la seringue, que des clames viennent dessus. Bon, j'avais les lunettes, on me dit ça va. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai passé, je dis pas mille fois parce que je suis pas bricoleur, mais en fait j'ai passé plusieurs fois du xylophène sur des meubles. Quand ils sont attaqués, je les traite. Et c'était pour la première fois que j'ai regardé ce qui était écrit sur le... Et je me dis, au fond, sur la totalité des produits qu'on utilise dans une maison, qui vont du garage à l'atelier en passant par la cuisine, et le placard de rangement avec les produits pour nettoyer les fers, etc., c'est un grand nombre de produits qui sont toxiques. Et vous, alors, vous vous intéressez à ce que moi je fais, quoi? Est-ce que je lis? Est-ce que je regarde? Est-ce que nous faisons tous? C'est ça votre questionnement.
Par exemple, oui, c'est tout à fait ça. Et effectivement, on peut se demander, est-ce que le consommateur est bien informé? S'il est sérieux, c'est-à-dire s'il lit avec sérieux ce que les fabricants ont l'obligation de faire, c'est-à-dire donner de l'information. Est-ce que finalement, on peut se fier à ce qui est écrit sur ces emballages? Est-ce que tous les dangers sont indiqués? Non. Tous les dangers ne sont pas indiqués. Donc ça, c'est un premier point important. Tous les dangers ne sont pas signalés. Et par contre, il y a aussi quelque chose à signaler, c'est que l'absence de la mention d'un danger ne signifie pas que le danger n'existe pas, puisqu'évidemment, tout n'a pas été testé.
D'accord.
Donc, il faut être extrêmement vigilant et utiliser avec précaution tous les produits qui sont indiqués à utiliser avec précaution.
Donc, Oui, si je puis me permettre aussi, il faut qu'il y ait...
Vous êtes ici pour vous permettre.
Voilà, je vous permets donc. l'enquête aussi s'intéresse à un aspect, c'est la compréhension des pictogrammes. Parce que cette symbolique, c'est intéressant, une tête de mort, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Une croix sur un carré orange, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gens associent bien le danger au pictogramme?
Alors justement, l'enquête, elle comprend trois parties.
Mm-hmm.
La première, c'est il y a eu des listes. Elle porte sur les produits de ménage, dédiés de bricolage et de jardinage. C'est trois grandes séries dans lesquelles on va trouver des produits dangereux. L'alimentation, c'est pas concerné parce que a priori, le yaourt, on doit le manger. On n'en fait pas d'autres usages, quoi. Mais donc produits de ménage, de bricolage, donc il y a des listes de produits. Et vous nous demandez par rapport à ce produit, comment est-ce qu'on lit, est-ce qu'on ne lit pas, et quel est le comportement. Il y a quatre, vous pouvez nous dire les quatre positions qu'on peut avoir par rapport à un produit. Alors ce sont.
Donc, ne sait jamais.
C'est le.
Aucun faible,
élevé, je ne sais pas. Mais ouais. En fait, pour essayer de rebondir un peu sur ce qu'a dit mon collègue concernant les pictogrammes, il s'avère que dans l'enquête que nous avons traitée, puisqu'il n'y a que 350 encore réponses, sur les 7 pictogrammes qui existent en France, il n'y en a que 3 qui sont vraiment identifiés par le public.
Donc, attends, la première, c'est donc la liste sur le ménage, sur les produits, pour savoir quel rapport on a avec ce qui est écrit. Et la deuxième, donc, c'est sur les 7 pictogrammes en question.
Voilà.
C'est un pictogramme, ces petits dessins qui sont représentés, censés nous dire une croix. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Une tête de mort, on peut imaginer que c'est pas brillant, quoi, comme truc. Une flamme, on peut dire que c'est inflammable. Mais par exemple, moi, les 4 autres, peut-être qu'un, on peut penser qu'il est, il représente une explosion. Mais on a du mal à...
C'est l'environnement, justement.
C'est l'environnement. Alors, vous voyez, donc...
Ils ne sont pas très explicites, effectivement. Moi, je pense que le public ne s'y est pas trompé, qui a répondu. Les 4 derniers, donc, il y en a un qui concerne donc l'environnement, l'autre qui concerne les produits explosifs, comburants et corrosifs, ne sont pas suffisamment explicites, ce que disait Joël. C'est-à-dire qu'en fait, la fabrication du pictogramme et la représentativité ne sont pas suffisamment marquantes pour le public. Ne le sont simplement que la tête de mort, qui veut dire que ce sont des produits toxiques, la croix qui sont nocifs, et enfin la flamme qui sont inflammables, que le public a vraiment identifié de façon quasi certaine.
Donc, la croix, je ne savais pas si c'était nocif, c'est vrai qu'il fallait faire gaffe.
Mais oui, voilà, c'est ennuyeux. Dès qu'on voit une croix, on se dit, aïe, danger.
Oui, c'est ça.
Instinctivement, voilà. On se méfie. Mais les autres, si on regarde l'environnement, c'est joli, il y a un bel arbre dessus, mais bon, je veux dire.
Un poisson mort, c'est ça qu'on voit. Un arbre desséché, un poisson mort.
Par exemple. Donc les quatre pictogrammes qui n'ont pas été identifiés, je crois que c'est un peu normal. Les comburants, alors là, évidemment, peu de gens savent ce dont il s'agit, et ils n'ont pas bien répondu là-dessus. Comme disait aussi Michel, il faudrait peut-être envisager au niveau européen une identification qui se reconnaît bien et qui soit commune à tous les pays, pour que on soit éduqué peut-être dans les écoles, pour que on reconnaisse les dangers là où ils sont.
Bon, alors, après ça, c'est après des suites qui seront données au travail du sociologue. Voilà, ouais. Mais pour le moment, votre enquête à vous, c'est cette perception que nous avons ou pas. Est-ce que au fond, ce que l'on nous offre, je comprends ça, ce que l'on nous offre à voir, est-ce que nous le voyons? Et si nous le voyons, est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous en tirons, ensuite, c'est le troisième point, au fond, une conclusion, une attitude par rapport au produit en question, hein, c'est comme ça. Alors le troisième point, eh bien c'est la troisième question, c'est justement celle du comportement. Dans votre enquête, c'est est-ce que vous lisez ou non, est-ce que je lis les étiquettes qui me sont proposées, est-ce que je respecte les précautions d'emploi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec on peut faire les deux, on peut lire et ne pas respecter.
Oui.
C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et bien évidemment, vous vous intéressez au savoir si bien les gens qui répondent utilisent régulièrement ou pas régulièrement ces produits-là, ou jamais, bon, auquel cas, s'ils ne les utilisent jamais, ils ne sont pas réellement vraiment concernés, ce qu'ils disent ne porte pas. Ce qui vous intéresse, c'est au fond, si les gens, quand ils utilisent occasionnellement ou très régulièrement, quel comportement ils ont. Et j'imagine que l'occasionnel est peut-être plus détaché encore de la réalité du risque qu'il court que celui qui peut-être sait qu'il faut ranger les produits à tel endroit, qu'il faut faire gaffe, qu'il faut mettre les gants parce que une fois il s'est fait prendre et que ça lui a fait mal et que et bon.
Alors c'est vrai aussi que bon l'échantillon que l'on a eu comporte 65% de femmes. C'est un paradoxe, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, justement. Tout ce qui est le domaine bricolage, jardinage, on aurait pu supposer à partir de cet effectif de femmes qu'elles auraient répondu que non, elles ne font pas de jardinage ni de bricolage, c'est plutôt du ménage. Eh bien, c'est
faux. Non, les femmes jardinent, bricolent, font tout la maison.
Exactement.
Ça, il faut le savoir.
Le risque, il est partout, mais les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes à cette partie-là. Et donc, j'engagerai les hommes qui nous écoutent, s'ils ont sous la main ce questionnaire, eh bien, d'y répondre, parce que pour l'instant... Il y a une grande majorité de femmes qui l'ont fait, et pas eux. Oui. 35% seulement d'hommes.
On peut peut-être dire à quel endroit on va trouver ce questionnaire.
Attends, avant d'arriver là,
là, pour inciter les hommes à aller répondre, justement.
Oui.
Je parlais d'un moteur de recherche et du CERTOP. Allez sur le site du CERTOP pour répondre à cette enquête. Les hommes aussi, bien sûr.
Voilà, bon, de façon équilibrée.
Autre point, bon, je crois qu'on a vu à peu près de quoi le contexte dans lequel allait se présenter l'enquête. Autre question, c'est celle, alors, puisque dans toute enquête, la question de la validité de l'échantillon questionné est un point fort. Donc, est-ce qu'on peut, peut-être rapidement, l'un ou l'autre d'entre vous, nous dire les modèles probabilistes ou non probabilistes, qu'est-ce que ça veut dire, et puis situer votre démarche par rapport à ces deux manières de faire?
Alors. Oui, donc en fait, le dispositif d'enquête est le suivant. On travaille sur un échantillon non probabiliste, c'est-à-dire que la population qu'on interroge n'est pas représentative statistiquement de toutes les strates de la société en termes d'âge, de sexe, de groupe social, de niveau de formation. Mais par contre, c'est un choix tout à fait délibéré. Le dispositif donc, que nous avons mis en place pour obtenir des informations sur un sujet dont on pensait que ça n'intéresserait personne, et là je crois qu'on se trompe finalement, parce que le sujet est invisible, ça ne veut pas dire que l'intérêt n'existe pas auprès de la population. On a donc créé un questionnaire. L'idée du questionnaire, c'est qu'il fallait en peu de temps mobiliser, en 5 minutes à peu près, mobiliser quelqu'un, des personnes, tout type de personnes, sauf peut-être des enfants, pour les amener à donner leur appréciation de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font avec des produits domestiques. Donc, on a mis en place un questionnaire comportant 11 questions, qui sont d'une part distribués sur un formulaire papier dont on a toute une enquête qui est réalisée. On va à la campagne, on interroge des agriculteurs, on va dans des endroits très variés dont on a des jeunes, on a des personnes âgées, on a des groupes sociaux assez variés. Et parallèlement...
Mais sans être probabiliste, celle-là, elle est, on va dire, différenciée quant aux personnes qui vont répondre.
Tout à fait.
C'est ça, donc elle est peut-être pas représentative au sens où l'utiliser...
C'est pas un échantillon réduit, non.
Voilà, mais c'est quand même différencié.
Voilà, ça sera un échantillon de référence parce que on savait par avance que avec le questionnaire électronique, on n'aurait pas de représentativité ou on s'approcherait pas du tout d'une représentativité, ce qu'a dit Michel Escarboutet tout à l'heure. Donc, on conduit cet échantillon de population qui répond à l'enquête sur Internet avec une technique appelée technique en boule de neige. Alors, comment on a procédé? C'est-à-dire qu'on a un noyau de départ, un noyau de référence, dit de premier niveau, qui est constitué de 5 personnes, nous 4 ici présents, plus une autre personne, Claire Thébault, qui se charge plus particulièrement de l'enquête questionnaire sur support papier. Et donc, on s'est donné pour charge de contacter nos réseaux professionnels, personnels, amicaux, familiaux, pour diffuser cette enquête. Ensuite, on a enrôlé à notre tour les personnes qu'on a contactées, qui sont dites des personnes de second rang, pour qu'elles-mêmes voient comment elles pouvaient, à leur tour, s'adresser à d'autres personnes de troisième rang, pour justement diffuser, ne serait-ce que l'adresse du site où se trouve le questionnaire.
Donc, on pourrait dire, si on vous écoute, que le biais de cette méthode-là, bon, d'abord, elle produit du résultat. Elle produit, les gens parlent à leurs amis, qui parlent à leurs amis, etc. Mais le biais, c'est qu'elle va vers des personnes qui sont intéressées. Mais c'est peut-être pas un biais, c'est peut-être quelque chose qui, justement, vous intéresse. Les gens qui communiquent, à partir du moment où la personne de réseau 2 va se contacter ses amis sur la question, c'est qu'elle estime... Elle a un intérêt pour cette question. Le premier niveau sont vos amis, donc ils vont répondre à la question pour vous faire plaisir. Mais si le jour où tout seul ils décident de s'adresser à leur propre réseau, par exemple sur le net, à leur propre carnet d'adresses, c'est pas le vôtre, c'est le leur. Et donc s'ils le font, c'est que quelque chose les motive dans le sujet même de l'étude. C'est ça que vous recherchez finalement.
Oui, tout à fait. Et alors on a été quand même extrêmement surpris parce que dans ce questionnaire, on a spécialement mis des questions fermées, c'est-à-dire on fait une proposition de réponse et les personnes ont à choisir, les personnes ont à hiérarchiser entre par exemple les dangers pour la santé et le danger pour l'environnement à partir d'une liste de produits, lessive, alcool à brûler, white spirit, etc.
Et je dois ajouter donc ces questions qui sont fermées, donc il y en a 10 sur 11, mais il y en a une qui est ouverte. Et c'est là où j'interviens, c'est-à-dire que la question ouverte, je me suis aperçu que par Internet les réponses sont assez...
ouverte. Il y a pratiquement 4, 5, 10 lignes des fois de réponses. Et donc, pour les traiter statistiquement, j'ai utilisé un logiciel d'analyse de données textuelles pour essayer de calculer les occurrences de mots, c'est-à-dire les mots qui reviennent le plus fréquemment. Et à partir de ces occurrences, j'ai fabriqué un scénario sémantique de façon à regrouper quelques mots, si vous voulez, et essayer de donner un sens à ce qui a été répondu de façon globale, pour ensuite repasser ce scénario sur chacun des résultats, chacun des individus, et en tirer des éléments chiffrés qui seront utilisables statistiquement. Les éléments chiffrés, ce sont les occurrences de mots, c'est-à-dire le nombre de fois où les mots sont répétés.
Alors, cette question ouverte, c'est obligatoire d'y répondre ?
Ben, statistiquement, on peut difficilement faire... C'est obligatoire d'y répondre.
Pour celui qui est infecté.
Non, il a tout à fait l'attitude de ne pas le faire, mais ils le font.
Et est-ce que d'habitude, les réponses sont 80%, 90%? Les gens répondent aussi à cette question?
Absolument. Je ne peux pas dire 100%, mais je veux dire pratiquement. C'est énormément.
C'est un très bon indicateur.
Moi qui réponds à des enquêtes sur le net, chaque fois qu'il faut que je réponde oui, non, oui, non, oui, non, ça va. Et dès qu'on me demande de rédiger en 5 ou 6 lignes quelque chose, en général, si l'enquête ne m'intéresse pas, ou pas vraiment, je zappe, je dis bon, ça va.
On verra plus tard. Mais elle intéresse quand même pas mal de personnes, puisque je vous disais qu'il y a 65% de femmes qui ont répondu, 35% d'hommes, donc les hommes n'ont pas été intéressés. C'est un fait. Ils n'ont pas voulu peut-être répondre aux questions où il fallait cocher, mais aussi à la question ouverte. Les filles l'ont fait ou les femmes l'ont fait.
Alors, parce que là, c'est difficile de gérer cet aspect, même de le théoriser un petit peu, parce que est-ce que c'est les hommes n'ont pas voulu répondre, ça vous ne le savez pas, puisque vous n'avez pas la preuve qu'ils n'ont pas voulu répondre, ou bien moins d'hommes ont été sollicités que de femmes, et ça vous ne le savez pas non plus, puisque c'est le revers de la méthode boule de neige, vous ne savez pas à qui s'adresse. Moi, je vais lancer cette enquête, et vous ne savez pas, en termes de genre, à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresser aux femmes de mes connaissances? Est-ce que je ne connais que des femmes? Ou est-ce que je vais aussi m'adresser à un public très large, etc. Donc là, il y a un biais.
Enfin, il peut y avoir des éléments de recoupement, comme justement au niveau de l'authentification de la connexion, on peut arriver à dire si telle femme a répondu durant la journée, par exemple, on peut imaginer que ce sont des femmes au foyer ou... Telle entreprise entre midi et deux a répondu. Vous voyez, ce sont des éléments d'appréciation. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, l'enquête a été mise en ligne le 11 octobre. On a eu à peu près 420 réponses. On a dépassé le millier de visites, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui regardent, mais qui ne répondent pas, qui ne soumettent pas leur avis. Donc. Et il faut savoir aussi que après le formulaire, l'internaute est basculé sur une deuxième page pour qu'on lui donne quelques informations. Et il a un champ dans lequel il peut laisser son adresse email pour être recontacté pour un approfondissement de son avis par les chercheurs.
Ou pour les résultats.
Et aujourd'hui, on a été aussi surpris en ce sens, c'est que l'on a trouvé quand même 148 contacts. Donc c'est quand même quelque chose qui, même pas un mois, nous donne un peu la dimension de l'intérêt que le public porte.
Ça dit aussi qu'on fait de la sociologie différemment avec Internet ou sans Internet quand même. Cette question-là, cette enquête était inimaginable sans le moyen du net.
Tout à fait.
Parce que par le moyen papier, l'idée du réseau de passer ne fonctionne pas. Alors que le moyen électronique permet très rapidement d'envoyer, de couvrir très vite un carnet d'adresses, une partie d'un carnet d'adresses si on le souhaite, etc.
Puis aussi, ajouter aussi que, comme je traite les statistiques, croyez-moi, quand on a des réponses par questionnaire écrit, il faut rentrer toutes les données à la main. Croyez-moi qu'un questionnaire égale beaucoup de temps passé pour le mettre sous forme statistique. Oui. Alors que par Internet, copier-coller, et hop, vous avez 300 individus qui sont rentrés dans la base.
Copier-coller,
beaucoup plus rapide.
Donc il a fallu que...
Ça, c'est le détail que fasse le montage. Mais je veux dire, pour moi, c'est bien plus facile de traiter des questionnaires sous forme électronique, donc informatique, que sur papier.
Oui, mais on voit alors, puisqu'on avait évoqué le début de la discussion là-dessus, l'intérêt, par exemple, on comprend, je crois, à travers la discussion qu'on a maintenant, de la pluridisciplinarité. Il y a des sociologues, vous êtes tous dans le laboratoire de sociologie, bien évidemment, mais l'informaticien amène une spécificité, la communication amène une autre, puisque faire savoir ce qui se passe là, c'est très important de ce genre d'enquête, et donc on a aussi la constitution, d'une certaine manière, d'une équipe ou d'un modèle d'équipe pouvant réaliser ce type de travail avec ce type de méthode.
Tout à fait, c'est ce que je disais un peu en préliminaire, c'est une enquête qui techniquement a été conçue vraiment avec un parallélisme remarquable, quoi, autant au niveau du chercheur que de la chargée de communication, que du statisticien et de l'informaticien que je suis. En fait, ce formulaire, on a interagi dès le début ensemble pour concevoir quelque chose qui tienne la route, dont les résultats seraient intangibles, mais aussi que ce formulaire vierge puisse être référencé correctement par les moteurs de recherche, qu'on offre tous les éléments en termes de programmation, mais après en termes d'utilisabilité des résultats fournis par l'internaute, de manière à pouvoir les rentrer dans les logiciels de traitement statistique, qui offrent vraiment et un gain de temps, mais qui soient aussi pertinents, interprétables, recoupables. Donc tout ceci a été.
Alors encore une question sur l'effet boule de neige. Vous arrêtez l'enquête mi-décembre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Jusqu'à quand l'enquête est disponible sur le site?
Jusqu'à la fin de l'année, parce que d'ailleurs ça nous permettra de tester si pendant la période de vacances scolaires il y aura davantage de visites, au contraire
si
beaucoup
on fait
moins
des boules de neige par les vacances scolaires pourvu qu'il neige. Mais justement, une chose, est-ce que vous pouvez mesurer, on pourrait dire, l'exponentialité de cette affaire-là? Parce que le côté boule de neige, c'est un côté exponentiel. La boule grossit, 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 tant qu'on trouve de la neige. Donc, est-ce que vous voyez, vous, monter les réponses?
En termes d'analyse, je dirais, c'est quelque chose que l'on pourra faire au terme, à la clôture, je dirais, du formulaire. On a tous les tampons dateurs, je dirais, des réponses. C'est-à-dire non seulement les dates mais les heures, et donc tous ces éléments-là vont nous permettre de construire un peu un profil de l'internaute qui aura répondu aux questions.
Alors en une minute, vous allez me dire ce que vous allez faire après, puisque l'enquête s'arrêtera le 1er janvier 2008 par exemple, le travail d'interprétation ça prendra combien de temps, et puis tous les gens qui ont participé, qui ont laissé leur contact, est-ce qu'ils vont être intégrés dans la boucle des réponses?
Oui. Alors, les personnes qui ont laissé leur contact, en fait, c'est à la fois pour leur donner des informations sur les résultats finaux, hein, mais c'est aussi pour les recontacter afin d'arriver à analyser des comportements qu'on a repérés et qu'on souhaiterait approfondir. Ce que ne permet pas le questionnaire, bien sûr, avec des items déjà tout préparés. Mmh. Donc, c'est un moment d'approfondissement. Ensuite, on va faire un traitement statistique, bien sûr, de ces données. Traitement statistique informatique. On va surtout passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre l'effet de l'échantillon et de l'effet de la technique boule de neige sur le questionnaire électronique et sur le questionnaire papier. Mmh. Puisque, évidemment, la validité des résultats va être liée à la qualité de l'échantillon, des échantillons que nous aurons recueillis.
Deux directions dans les réponses. Une sur la méthode que vous avez mise au point.
Absolument.
Et son efficacité et comment elle peut être améliorée, etc.
Absolument.
Dans ce cadre-là. Et le deuxième, sur le contenu même de l'enquête. Bon, c'est deux, au fond, dans le même sujet, il y a deux sujets d'étude. On peut dire des choses comme ça, et on comprend comment vous avez pu vous rassembler. Juste pour répéter que c'est sur le site du CERTOP qu'on peut trouver cette enquête. J'imagine aussi que sur le site du CERTOP, quand on est sur l'enquête, on peut copier l'adresse et l'envoyer à ses propres amis, ou faut-il demander l'autorisation?
Non, tout à fait, c'est libre d'accès, on ne peut plus. On peut trouver facilement même l'enquête en tapant formulaire enquête étiquetage sur Google, on tombe dessus de suite. Quoi. Donc, le site de l'université du Mirail, qui héberge donc le site du CERTOP, là il y a une annonce qui renvoie sur l'endroit spécifique où l'on a déposé le...
Voilà, pour ce qui me concerne, les lecteurs de la lettre du... CAF des sciences de la société de la prochaine lettre auront l'accès, je leur donnerai l'adresse, donc ils auront le lien qui sera créé et ils pourront aller répondre. J'espère que je participerai de la sorte à l'effet boule de neige, qui est une chose qui me plaît beaucoup. Je tiens à vous remercier à toutes et tous d'être venus passer ce moment dans les studios de Radio Monde País. Mais c'était Neurones en folie, une émission qui est proposée par le CICOVAL, et je vous retrouverai la semaine prochaine. Et merci Nathalie qui a relayé Michel à la technique. À la semaine prochaine, au revoir.